Vous allez entendre le message Apocalypse, chapitre 4, partie 1, prêché par notre précieux frère et prophète William Marion Branham, le 31 décembre 1960. Amen. Gloire au Seigneur. Je pense que c'est l'attitude de bien des gens. C'est vraiment bien, la jeune sœur, là, ce dernier couplet, je l'ai vraiment apprécié. Et nous, à l'approche du nouvel an, je ne pense pas que vous auriez pu chanter quelque chose de mieux, de plus approprié pour cette soirée. Il semble que nous commençons l'année sur une bonne note. Enneigée, fondante à l'extérieur, une température typique de l'Indiana à cette période de l'année. Donc vous, les gens de Georgie que je vois ici, de l'Ohio, frère Dutch, vous et sœur Dutch, savez que c'est, car c'est pareil en Ohio. Mais nous allons dans un pays où il n'y aura plus rien de tout ça. Oh oui, c'est ce qui compte. Ce soir, c'est la veille du nouvel an, et bien sûr, tout le monde a inscrit un vœu et une promesse que vous allez prendre pour le nouvel an, puis après-demain, elles seront toutes été brisées. Et donc, vous savez, vous tournez une nouvelle page à chaque année, mais vous la retournez le lendemain matin, et vous l'avez encore fait. Mais il y a juste une chose que je voudrais dire, c'est... Comme l'a dit l'apôtre Paul, oubliant ces choses du passé, toutes mes erreurs et toutes les choses que j'ai faites, je cours vers le but de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le seul regret que j'ai, ce sont mes erreurs de l'année passée et de passé de ma vie, et je lui demande humblement la grâce de courir vers le but de la vocation céleste. Je suis sûr que c'est le témoignage de chacun de nous. Nous le ressentons tous. Dommage que ce soit une soirée de mauvais temps et que les gens n'aient pas pu venir. J'ai appelé Frère Neville, je ne savais même pas s'il pouvait venir ici ou pas. Et puis Frère Skagg est arrivé, il est arrivé du Kentucky où il y a une mètre ou plus d'épaisseur là-bas. À peu près comme ça, il dit aussi, il a dû demander à un fermier de le sortir de la neige quelquefois et de le tirer en haut de la colline avec un tracteur. Alors je me suis dit, si nous n'avons que 5 ou 6 cm, ça ne dérange pas. Oui, tant que c'est comme ça, mais les routes sont praticables et tout le monde y circule. Maintenant, bien sûr, ce soir, nous allons entendre divers ministres, des gens différents qui nous visitent. Ils vont probablement venir à tour de rôle selon la répartition de la soirée jusqu'à minuit. Je pense qu'ils vont surveiller le moment du nouvel an qui va commencer et l'ancien qui se termine. Et habituellement, ils font un appel à l'autel, ils prient et ils font leur vœu à Dieu et renouvellent leur vœu. J'ai dit à Frère Neville, et je l'ai appelé pour voir s'il venait. J'ai dit que s'il ne venait pas, j'essaierais de tenir la réunion du mieux que je peux. Et que s'il ne pouvait pas venir ici le matin, j'allais continuer de faire tout ce que je peux pendant qu'il n'est pas là. Et je lui ai dit que j'allais essayer ce soir. Je pensais n'avoir qu'un message d'une quinzaine de minutes ou quelque chose comme ça. Et nous voyons que vous avez plusieurs autres ministres assis ici qui attendent. Alors, j'étais donc à penser que j'allais juste continuer dans ce livre de l'Apocalypse, verset par verset, et prendre le chapitre 4 ici pour commencer. Et si on ne le finit pas ce soir, allons continuer la prochaine fois. Ensuite, prendre le chapitre 5 et 6, comme nous le pourrons, que le Seigneur nous aide à passer au travers. J'aimerais dire, avant de commencer, qu'il y a eu une visite... Il y a quelques instants du frère Drummond, Tom, et sa femme. Voici sa mère et son père assis ici ce soir. Et ils reviennent tout juste d'Afrique. Ils ont tenu d'excellentes réunions pour le salut des âmes et des réunions pour la guérison divine. Cette petite dame a pris, je crois que c'était la place de sa grand-mère l'autre jour, qui tenait un service dans une prison. Et les pécheurs sont venus au Seigneur et tout. C'était merveilleux de voir comment Dieu utilise ce jeune couple. Ils sont ici en Amérique pour un certain temps pour faire de l'évangélisation. Si l'un de vous, pasteur, je veux écrire à frère Drummond, et Drummond, je n'arrive pas à lire ce nom. Pourquoi n'aurais-tu pas pu prendre un bon nom anglais et oublier ça? Donne-lui juste un numéro, qu'en dites-vous? Parce que je n'y arrive pas, non? Je ne pense pas que la moitié d'entre nous nous puissions y arriver. Drummond, je pense que c'est la bonne façon de le prononcer. Et sœur Charlotte, si l'un de vous aimerait les avoir, j'aimerais bien entendre dire qu'ils sont allés dans votre église. Cette dame, cette sœur Charlotte, n'est qu'un enfant. Elle témoignait là, il y a quelque temps, à Meda, de l'expérience qu'ils avaient eue en Afrique. Et je vous le dis que c'était Billy. Ça a ramené le bon vieux temps. On aurait dit qu'elle parlait afrikaans. Ainsi, la bataille fait rage autant là-bas qu'ici. Si quelqu'un aimerait avoir Frère John pour un, et Sœur Charlotte pour une campagne dans leur église, s'il vous plaît, vous n'avez qu'à appeler Frère Tony Isabelle à Melrose 73945. Si vous voulez le noter, certains de vous, les ministres, je recommande certainement Frère, car c'est un bon prédicateur, un garçon sincère qui a vraiment besoin d'un départ pour débuter. Il n'a pas peur de rien. C'est un bon garçon. Et je l'aime beaucoup. Souvenez-vous, Melrose 73945. Et je vais laisser cette petite carte ici au cas où vous. C'est leur carte. Et si vous ne pouvez pas noter le numéro, bien, vous pouvez venir la chercher ou n'importe quand à la pause entre différents services. Ce soir, prenez leur numéro en note et appelez-les si vous aimeriez les avoir dans certaines de vos églises pour une réunion ou quelqu'un que vous connaissez qui aimerait les avoir parce qu'ils font une croisade à travers l'Amérique. N'est-ce pas quelque chose? L'Afrique doit envoyer des missionnaires ici en Amérique. C'est l'endroit où on en a besoin, ici même, plus que là-bas. Bon, combien sont dans la joie et heureux que le Seigneur vous ait protégés durant une autre année? Et nous voici arrivant au bout du chemin. Et priant que Dieu nous pardonne tous nos péchés et nos manquements. Maintenant, je veux dire ceci avant de commencer. Je souhaite à chacun de vous la nouvelle année la meilleure, la plus heureuse et la plus remplie de santé que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous. Puissiez-vous grandir à la fois physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie pour qu'il le fasse. Maintenant, je fais face à une nouvelle année, moi aussi. Dieu seul sait ce qui m'attend dans l'avenir, et nos décisions doivent être prises tout de suite. Nous avons toutes nos affaires, Frère Jim là-haut, les a préparées maintenant pour les invitations et les choses du monde entier, pour voir où le Seigneur va nous conduire. Et je sollicite certainement vos prières pour prier de tout votre cœur que Dieu ne me laisse jamais être induit en erreur. De tout ce que je veux être, c'est d'être sincère et ne jamais être induit en erreur. Et maintenant, j'ai eu une bonne année. Souvent, les gens se méprennent. Et quand ils disent, « Frère Branham, tu ne vas plus dans les endroits comme tu le faisais auparavant, et comme ces autres ministres le font, et tu as tout ce que... » J'ai appris une chose de l'enseignement de notre Bible. Et de notre Seigneur, que Jésus n'était pas un homme de spectacle. Il n'avait pas cela. Il n'avait pas le sens du spectacle. Vous voyez, il n'était pas du tout un homme de spectacle. Et je ne crois pas que ses disciples soient des hommes de spectacle. Jamais ils ne se sont présentés comme des hommes de spectacle. Je pense que c'est là que nous manquons le bateau de nos jours. C'est peut-être ma propre idée. Quand nous sonnons de la trompette pour tout, vous savez pourquoi? Je pense que ça relève plus du spectacle que du caractère sacré. Avez-vous remarqué dans la venue du Seigneur, ceux qui l'ont vraiment reçu? Il y avait Siméon, personne n'a jamais entendu parler de lui, mais il attendait le Seigneur. Anna l'aveugle dans le temple, Jean-Baptiste dans le désert. Et Jean est allé dans le désert à l'âge de 9 ans, et on ne l'a pas revu avant l'âge de 30 ans, dans le désert. Et des hommes comme cela qui croyaient en secret, et qui restaient humbles, ils attendaient la venue du Seigneur. Ils n'ont jamais proclamé leur union, ils n'ont jamais eu à mettre de grandes affiches, c'est l'heure, le moment, et les diffusions, et tout le reste. C'est bon pour ceux qui veulent le faire de cette façon, mais pour moi, ce n'est pas semblable à Christ. Je sais qu'une fois, ses frères lui ont dit, « Tu fais ces miracles et ces choses, pourquoi ne montes-tu pas ici à Jérusalem? » Nous montons à la fête de la Pâque. Appelle Caïphe, le souverain sacrificateur, et tous ceux-là, et laisse-leur savoir. Fais-le devant eux comme ça, afin qu'ils voient tes œuvres. Maintenant, voyez, qu'est-ce que tu fais avec une bande de pêcheurs et ainsi de suite là-bas à la rivière et cette classe inférieure de gens? Pourquoi ne montes-tu pas ici? Ne laisse-tu pas le monde le voir? Voyez, j'ai déjà dit, votre heure est toujours. Mon heure n'est pas encore venue. Oui, vous voyez. Jean était une fois, Jean le Baptiste, les Écritures ont parlé de sa venue. Il a dit quand il vint, que, eh bien, Ésaïe a dit environ 712 ans avant sa naissance, il y aurait la voix de celui qui crie dans le désert. Et a dit, toutes les montagnes sautaient comme des petits agneaux, toutes les feuilles battaient des mains, les hauts lieux étaient abaissés et les bas lieux étaient élevés. Des prophéties telles que celle-là. Que pensez-vous de ces ministres de ce jour-là, quand ils ont lu ça? Ils ont dû dire, oh là là, quand ce grand prophète va venir, tout le monde va le connaître. Dieu va étendre les voûtes du ciel, les couloirs du ciel s'abaisseront, un char de feu va descendre, une bande angélique va l'escorter jusqu'à la terre. Lorsqu'il est venu, c'était un vieux prédicateur barbu, enveloppé d'une peau de mouton, avec un morceau de cuir pour ceinture. Il n'avait probablement jamais pris de bain que tous les 3 ou 4 mois. Là-bas, dans le désert, il est sorti, se tenait dans la boue jusqu'aux genoux, prêchant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il n'est jamais allé dans les villes. Si quelqu'un voulait l'entendre, il venait au Jourdain pour l'entendre. Ceux qui le voulaient, qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué la nation, il a secoué le monde. Il a présentement une secousse et les gens n'en savent rien. Quand Jésus est venu, il ne s'est jamais identifié parmi les grands. Il est venu chez les siens. Il est venu vers ceux qui l'attendaient. C'est de là que vient la secousse. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Le Saint-Esprit vient vers ceux que Dieu a appelés. Il y a une grande secousse parmi les élus. Quelque chose de grand et de puissant est en branle, mais le monde n'en sait rien. Ils pensent avec toutes ces grandes choses florissantes et les diffusions mondiales, les télévisions et les édifices $1 million et tout le reste, que c'est ce qui est grand. C'est de la folie aux yeux de Dieu. Dieu ne regarde pas les grandes choses. Ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Et ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Il lui a plu par la folie de la prédication de sauver ceux qui étaient perdus. Maintenant, pour Jean, que pensez-vous qu'il disait? Il y a un vieux fanatique là-bas, un type au visage couvert de barbe, sorti du désert, enveloppé d'une peau de mouton. Et bon, il se tenait dans la boue, pieds nus, sur le bord du Jourdain, et il prêchait là-bas qu'il n'a jamais entendu pareille chose. Quand Jésus est venu, un Messie né là-bas, dans une étable, sur un amas de paille, et le bétail qui se promène tout autour, et voulait dire avec une mère illégitime comme son père, la mère est enceinte avant même qu'il soit marié, eh bien, il est né en dehors des liens sacrés du mariage. Ce gars-là, oh là là, vous voyez, mais c'était grand. Il ne le savait simplement pas, vous voyez, il ne le savait pas. C'est pareil pour l'Évangile aujourd'hui, grand. Et l'Évangile secoue comme jamais auparavant, mais il secoue parmi le reste. C'est vrai, il les prépare. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il a dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Et comme vous y allez, celui qui vous reçoit me reçoit. Quand vous allez dans une ville, s'ils ne vous reçoivent pas, secouez la poussière de vos pieds et partez. Je vous le dis en vérité, le pays de Sodome et Gomorrhe, au jour du jugement, sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Et toutes les villes qui ont refusé ces hommes sont ensemble aujourd'hui. Toutes celles qui les ont reçues sont encore debout comme une tour. C'est vrai, voyez? Il prend beaucoup de temps pour répondre, mais Dieu répond. Ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas que je commence là-dessus, sinon je ne parviendrai jamais à l'Apocalypse. Oh! Oh, je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues, pavées d'or, élevez ma voix. Mes soucis sont finis. Je suis à l'abri. J'aime cela. Courbons la tête un instant. Aimeriez-vous vous lever avant de le faire? Je pense que la Bible dit, quand vous êtes debout, faisant votre prière, pardonnez. Combien de requêtes que vous aimeriez faire connaître en levant la main? Rappelez-vous, Dieu le voit. Il sait tout de cela. Notre Père céleste, nous approchons ta divine sainteté au nom du Seigneur Jésus, ce nom entièrement suffisant qui a été donné ici parmi les hommes, que même les familles dans le ciel et sur la terre portent tout le nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que tu reçoives notre action de grâce, d'abord pour commencer cette année qui finit, comme nous la terminons ce soir en service, pour la terminer par des louanges en étudiant ta parole et en sachant que c'est ce que l'ainsi dit Seigneur signifie. Combien de choses pourrions-nous mettre par écrit dont nous sommes reconnaissants? Les petites échappées de justesse que nous avons eues cette année où Satan aurait étouffé notre vie, mais tu n'en as pas encore fini avec nous. Alors nous continuons encore. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes nés et venus dans ce monde que pour t'honorer et te glorifier. Et nous prions, Père, que tu pardonnes toute faute et tout manquement que nous avons pu faire tout au long du voyage. Laisse-nous oublier nos erreurs ce soir, alors que nous les confessons en les enterrant dans la mer de l'oubli au nom du Seigneur Jésus. Ne plus jamais les déterrer, mais courons maintenant vers ce but pour cet homme parfait, Jésus-Christ. Accorde-le ce soir, Père. Pendant que tes serviteurs parleront, chacun d'eux, puisses-tu les oindre de l'esprit de vie et puisses-ils prêcher comme jamais auparavant et apporter les messages dans l'Église ce soir. Et nous nous sommes rassemblés ici sous ce petit toit dont nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants d'être assis près d'un feu chaleureux avec un toit au-dessus de notre tête. C'est tout ce qu'il faut, car nos trésors ne sont pas de ce monde, mais dans le monde à venir. Dieu, nous nous reposons là-haut où nous croyons que les voleurs ne peuvent pas entrer et dérober et la teigne ne les corrompt pas, car nos trésors sont la vie éternelle. Et nous prions, Père, que tu nous laisses chérir cela tous les jours de notre vie. Fais de nous tes serviteurs dignes. Enlève tout mal de nous, Seigneur, tout le passé, puisque toute racine de malice et d'amertume soit enlevé de nos vies et que nous puissions être humbles et doux devant toi. Accorde-le, Seigneur, que nous ayons la meilleure année que nous ayons jamais eue cette année qui vient. Alors, accorde-le. Donne-nous ce soir de ta parole alors que nous attendons tes messages. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, c'est un peu difficile pour moi de voir cette horloge là-bas. Je ne veux pas faire attendre mes frères, alors je vais essayer d'aller le plus vite possible et de me dépêcher pour terminer cette partie. Et peut-être, si nous ne finissons pas, alors demain matin, nous essaierons peut-être de continuer si le Seigneur le veut. Et puis, si Frère Neville ne vient pas ou quoi que ce soit, bien, alors j'essaierai, le Seigneur voulant, d'être ici pour tenir la réunion de l'école du dimanche. Bon, n'oubliez pas maintenant. Priez, le seul moyen d'atteindre les hauteurs. Priez, la prière de la foi fera descendre les bénédictions de Dieu. C'est la seule façon d'y arriver. Chantons-le ensemble. C'est le nouvel an maintenant. Nous avons beaucoup de temps. Priez. Le seul moyen pour atteindre les hauteurs. Priez. La prière de la foi fera descendre les bénédictions de Dieu. Si la prière de la foi fait descendre les bénédictions de Dieu, continuons à prier. Je suis si heureux ce soir, nous avons de nouveaux visages dans le royaume de Dieu qui n'étaient pas ici l'année dernière. Et je suis continue juste de prier pour que d'autres s'ajoutent continuellement et on n'a pas jamais dit la moitié de ce que ce sera de l'autre côté. Bon, passons maintenant au chapitre 4 de l'Apocalypse. Quelqu'un a besoin d'une Bible? Nous avons quelques Bibles ici, si vous voulez suivre avec nous. Très bien, qu'un des huissiers s'avance. Nous en avons toute une rangée de Bibles ici. Qu'un des administrateurs, un huissier ou autre s'avance immédiatement. Frère Isabelle, qu'un autre vienne aussi. Si vous voulez aller des deux côtés, nous descendrons dans les allées. Si quelqu'un veut une Bible pour suivre avec nous, bon, eh bien, emportez-la et donnez-la à ceux qui la veulent. Et nous voulons que vous alliez maintenant dans l'Apocalypse, au chapitre 4. Et maintenant, si vous êtes assis en arrière et que vous aimeriez avancer ici, nous avons beaucoup de place ce soir pour que vous veniez à l'avant. Mettez-vous à l'aise et allons directement dans la leçon et aidez-moi à la lire et à l'étudier alors que nous nous rassemblons. Il y a des sièges ici. Je vois un couple qui vient. Il y a deux sièges juste ici. En voilà un pour la personne seule juste ici. Et ici en arrière, il y a des sièges. Ici, je suppose que les ventilateurs sont pareils partout. Et maintenant, combien ont aimé notre leçon que nous venons d'avoir, la leçon de 8 jours sur les 7 âges de l'Église? Merci. Ça me réjouit car j'en ai moi-même tiré une grande bénédiction. Maintenant, ce soir, Avec le chapitre 4, nous avançons donc de l'endroit où Jean avait parlé à l'âge de l'Église de Laodicée. Et dans cet âge de l'Église de Laodicée, c'était l'âge de l'Église le plus chaotique de tous les autres. Nous avons trouvé ce qu'il y avait de plus pathétique dans la dernière partie de l'âge de l'Église de Laodicée, Jésus se tenant à l'extérieur de sa propre Église d'où il avait été rejeté. Il frappait à la porte et il cherchait à revenir à l'intérieur. N'est-ce pas là un péché? Je pense que c'est l'une des Écritures les plus pathétiques que j'ai jamais lues. Jésus à l'extérieur de sa propre porte, et son Église l'avait expulsé et il cherchait à revenir à l'intérieur juste pour les sauver. Tout homme qui ouvrira, qui me laissera revenir dans ma propre maison, je souperai avec lui et lui avec moi. N'est-ce pas pathétique? Le Dieu du ciel, expulsé de sa propre Église par leur credo et leur dénomination et leur manière de faire, l'ont expulsé de l'Église et ont accepté leur credo. C'est exactement la même chose que le jour où Jésus a été crucifié. Et c'est ainsi quand ils ont accepté Barabbas, un meurtrier, et crucifié Jésus. Libérer un meurtrier parmi eux qui avait été reconnu comme un meurtrier et accepter et rejeter Jésus-Christ, le seul qui pouvait leur donner la vie. Et c'est la même chose que toutes les dénominations et la dénomination pentecôtiste font aujourd'hui. Ils voient que ces dénominations meurent aussi vite qu'elles se forment. Il n'y en a jamais eu une seule dans les pages de l'histoire qui ait formé une dénomination et qui n'ait fait autre chose que mourir aussitôt. Tous les signes, les prodiges et les dons les ont quittés et tout le reste dès qu'ils ont formé une dénomination. Et au lieu d'accepter que le Seigneur Jésus leur donne la vie, ils ont tout de suite fait demi-tour et ont relâché Barabbas parmi eux. N'est-ce pas terrible? Pas étonnant que Dieu ait été expulsé de son Église et se tient là et il frappe. Au dernier âge de l'Église, il cherche à revenir à l'intérieur. Maintenant, nous découvrons que l'Apocalypse est divisé en trois blocs. Le premier comprend les trois premiers chapitres et se rapporte à l'Église, le message, l'ange, aux anges de l'Église. Et puis elle disparaît juste là, dans le chapitre 3. Elle n'apparaît plus avant le chapitre 19. Elle revient au chapitre 19. Entre-temps, Dieu traite avec les Juifs. Puis, à partir de là, ça se passe entre la venue de la grande cité de Jérusalem et le scellement du peuple d'Israël, et ainsi de suite, au temps de la fin. Bon, ce soir, nous nous laissons. Tout de suite après, Jean avait vu sur l'île de Patmos. Combien se souviennent à quelle distance Patmos se trouvait de la côte? À quelle distance? Environ 30 000, c'est ça, de la côte. Quelle était la circonférence de Patmos? Vous vous souvenez des données géographiques? Environ 15 000 de circonférence. Les Romains l'utilisaient comme exil où ils envoyaient les prisonniers. Les gens s'y trouvaient pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait volé quelque chose? Non. Ils l'ont exilé là-bas parce qu'il dérangeait les gens et faisait quelque chose de mal? Non. Non. Pourquoi était-il là-bas? À cause de la parole de Dieu et de son témoignage, parce qu'il prêchait l'Évangile. Et peut-il arriver quelque chose à un chrétien sans que ce soit pour le mieux? Non. Non, non. Alors pourquoi Dieu l'a-t-il retiré seul sur l'île? Pour nous donner ce livre de l'Apocalypse? Voyez? Dieu peut voiler les yeux du diable chaque fois qu'il le veut, n'est-ce pas? Très certainement. Comme je l'aime, parce que je n'ai pas besoin d'être intelligent, voyez? Et si j'étais intelligent, j'essaierais d'oublier tout ça, parce que je sais que personne ne peut être aussi intelligent que lui. Et donc, je me soumets à lui et je fais ce qu'il me dit de faire, c'est tout. Parfois, c'est vraiment contraire à ce que je pense, mais je sais que si c'est lui qui conduit, il connaît tout, il sait ce qu'il fait, pas moi. Alors, je le laisse faire, vous voyez, alors c'est juste, c'est très bien, vous voyez. Aussi, je le laisse faire, c'est ça, frère Noël. Oui, monsieur, le laissez faire, vous voyez, c'est lui qui sait ce qu'il fait, pas moi, vous voyez, ainsi je n'essaie pas d'avoir de grandes éloges et tout ça, je m'humilie simplement et je dis, mais voici Père, toujours prêt à te servir. Puis en agissant ainsi, ça finit toujours bien. Ainsi, Jean, nous n'aurions pas eu le livre de l'Apocalypse si ça n'avait pas été de Jean. Si Jean n'avait pas été exilé sur l'île, c'était la manière de Dieu de nous donner le livre de l'Apocalypse. Il a été là-bas, je pense, environ 3 ans sur le livre, à écrire le livre de l'Apocalypse. Maintenant, quand nous l'avons laissé à la fin de l'invitation du verset 22 au chapitre 3, que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux Églises. Commençons maintenant au chapitre 4. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue était comme le son d'une trompette qui me parlait. Il dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Nous allons le prendre verset par verset. J'ai beaucoup d'écritures inscrites ici, un livre plein, et je ne sais pas jusqu'où nous allons nous rendre, que le Seigneur nous guide maintenant. Regardez, la parole est après ces choses, après l'âge de l'Église. Et tout cela, à partir d'ici et la suite, va concerner ce qui va se passer sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, après l'enlèvement, c'est le retour pour prendre Israël. Après l'âge de l'Église, après les âges de l'Église, et l'Église n'apparaîtra plus avant le chapitre 19 de l'Apocalypse, quand elle revient avec son époux. Gloire à Dieu pour le mariage. Lisons simplement cela. Aimeriez-vous lire ces Écritures à mesure que nous les voyons? Très bien. Prenons Apocalypse 19. Très bien, monsieur, Apocalypse 19. Commençons au verset 7, Apocalypse 19. C'est là où l'Église réapparaît. Elle n'est pas réapparue avant le chapitre 19. Réjouissez-nous, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. Oh, je pourrais prêcher là-dessus jusqu'à minuit. Il n'a pas en touché la moitié. Regardez. Son épouse s'est elle-même préparée. Charlie, Nelly et vous tous, exactement ce que nous parlions là-bas, et René l'autre jour, vous voyez? Quand Élisée a jeté ce vêtement sur Élie, ou Élie l'a mis sur Élisée, il l'a pris et l'a enlevé de nouveau, l'a mis sur lui et a marché avec jusqu'à ce qu'il traverse le Jourdain et aille sur la montagne et monte dans le char. Et le laisse tomber. Lorsqu'un chrétien vient d'être sauvé, son visage est tourné vers Christ, alors il se doit de faire quelque chose par lui-même. Il le doit. Ensuite, il se sanctifie de toutes les habitudes impures, rejetant tout fardeau, se préparant elle-même. L'épouse s'est elle-même préparée. Cela me rappelle une petite histoire. Il faut que je la raconte avant de continuer. Ici, dans l'Ouest, il y a quelque temps, il y a des années, il y avait cette grande entreprise Armour and Swift Packing Company. Ce qu'ils font, c'est ce qu'ils vont là-bas acheter du bétail et des ranchs. Ils valent beaucoup d'argent et achètent tous les petits ranchs et possèdent des millions d'acres de ranchs comme ça et séparent ces gros et beaux bovins, Hereford en section. Ils possèdent leur propre chemin de fer et des choses pour transporter le bétail d'un pâturage à l'autre. Et Armour and Swift avait un grand ranch. Et un jour, ils avaient un contremaître. C'était le surintendant. Il était du ranch. Il avait 4 ou 5 filles. Ils ont découvert que l'un des grands frères Armour était, ou pas des frères, mais des fils, allait visiter le ranch. Et c'était un jeune homme célibataire. Et toutes ses filles étaient sûres qu'elle allait séduire ce garçon dès son arrivée. Ainsi, elles se préparaient toutes et préparaient tout pour sa venue. Quand il arriverait, elles allaient le rencontrer habillées à la western avec leur petite robe à franges et leur pistolet 44 sur chaque hanche et leur chapeau penché vers l'arrière de la tête, vous savez. Et elle allait être de véritables cowgirls, puis chacune fille allait voir, d'une d'elles allait avoir ce garçon. Et elle avait là une petite cousine dont la mère et le père étaient morts. C'était une cousine et elle était presque l'esclave de toutes celles qui étaient là. Et toute la sale besogne, elle devait la faire, laver la vaisselle et tout. Et elle n'avait pas de vêtements, elle devait porter des vêtements de seconde main. Puis quand le temps est venu où ce garçon devait arriver, elles sont toutes montées dans leur carriole, elles sont allées à la gare pour l'accueillir, et elles tiraient du pistolet, les chevaux qui hennissaient et tout, et elles l'ont emmené au ranch, et ce soir-là, ils ont eu une super fiesta, ils allaient sur les bottes de foin, la clôture du corral, et ils ont chanté et dansé toute la nuit. Ils étaient là pour 2 ou 3 jours, cette petite cousine. Maintenant, je vais comparer ceci à quelque chose maintenant. Nos cousines qui sont toutes bien habillées avec de grands clochers et de belles églises, et il semble que si l'on doit attribuer un mauvais nom, quelque chose de mal, cela doit être aux pentecôtistes. Ils font aussi de mauvaises choses, mais on n'en entend pas parler. Vous voyez, ils sont un peu classiques, alors on n'en entend pas parler. Mais qu'un pasteur pentecôtiste fasse une erreur une fois, et frère, je vous le dis, ils vont la répondre dans tous les journaux du pays. Oui, monsieur, qu'un frère pentecôtiste prie pour un enfant et qu'il meure, tous les journaux du pays vont le publier. La guérison divine, c'est du fanatisme. Eh bien, alors pourquoi ne pas publier dans le journal tous les cas perdus par les médecins? Ce qui est bon pour l'un est aussi pour l'autre, vous voyez? Ou s'il le faisait, il n'aurait pas assez de place dans les colonnes des journaux pour inscrire tous les morts. Si j'allais ici dans le cimetière, que je disais que tous ceux qui sont morts suite à la guérison divine se lèvent, et que je disais ensuite que tous ceux qui sont morts suite à un traitement médical se lèvent, il les surpasserait 1 million pour un. C'est tout à fait vrai. Alors, s'ils critiquent l'un, qu'ils critiquent l'autre. Ainsi, c'est vrai. Mais ils en tuent des millions chaque année avec des médicaments et des opérations, et on n'en a jamais parlé, voyez-vous? Alors, cette petite fille, elle devait faire tout le travail difficile. Alors, quand tout à coup, le garçon, un soir, quand ils ont eu terminé de souper, qu'ils avaient dansé, que chacune de ses filles s'était mise en beauté, vous savez, et cette pauvre petite fille devait porter une vieille petite robe en haillons. Un soir, qu'elle se trouvait dans le gâchis de la salle, après le souper, elle avait fait la vaisselle et elle est sortie en courant dans la cour arrière pour jeter l'eau de vaisselle. Elle, quand elle a fait le tour de la clôture du corral, le voilà appuyé sur la clôture du corral et il a dit « Bonjour ». Elle était si embarrassée parce qu'il était le fils du surintendant, le fils du propriétaire du ranch. Elle tenait la bassine vers le bas pour qu'il ne remarque pas ses haillons et elle a commencé à reculer avec ses pieds nus en regardant en arrière comme ceci. Et il s'est approché d'elle et il a dit, « N'aie pas peur de moi. » Il a dit, « Je vais te dire quelque chose. » Il a dit, « Je suis venu ici dans un seul but. Je suis venu pour trouver une épouse. » Et il a dit, « J'ai cherché partout. » Et il a dit, « Je ne voulais pas épouser aucune des filles de la ville là-bas. Je veux avoir ce que je crois être une vraie femme. » Et il a dit, « De tout ce que j'ai vu, j'ai été remarqué par ici, et j'ai découvert par l'intermédiaire de certaines personnes que tu es une cousine. » Elle a dit, « C'est vrai, monsieur. » Il a dit, « Je veux te demander quelque chose. Veux-tu m'épouser? » Eh bien, elle ne savait pas quoi faire. Elle était si surprise qu'elle ne savait pas comment répondre à cet homme. Oh, je peux imaginer ce qu'elle ressentait, pas vous? Quand moi, un pécheur, un bon à rien, l'enfant d'un ivrogne, Jésus-Christ a dit, « Je veux t'avoir pour moi. » Comment pouvait-il venir à quelqu'un comme moi? Comment pouvait-il dire, « Je vais te donner une maison dans le ciel? » Comment pouvait-il dire, « Je vais te sauver, un misérable comme moi? » Comment était-ce possible? Mais il l'a fait. Elle a dit, « Monsieur, je ne suis pas digne. Je ne pourrais pas épouser un homme comme vous. » Elle a dit, « Parce que vous êtes habitué aux grandes choses. Et je ne connais rien de tout ça. Je suis pauvre. » Elle a dit, « Mais tu es mon choix. » N'est-ce pas que c'était beau quand Jésus vous a dit cela? Vous saviez que vous n'étiez pas digne d'être chrétien. Vous, il n'y avait rien que vous puissiez faire, mais ce n'est rien. Il vous a simplement choisi. Voyez, et c'est par sa bonté, sa miséricorde qu'il vous a choisi. Vous ne l'avez pas choisi, vous savez, c'est lui qui vous a choisi, c'est vrai. Elle a dit, je ne sais pas. Elle a dit, je ne regarde pas tes vêtements, je ne regarde pas tes vêtements, je regarde ce que tu es. Il a dit, veux-tu m'épouser? Et finalement, l'engagement a été pris. Elle a dit, dans 1 an, je vais revenir. Sois prête. Sois prête Sois prête avec ta robe de mariée, car je vais revenir et t'épouser ici même à cet endroit. Puis je vais t'amener à Chicago sur Auto Drive où tu vivras dans un château. Et alors, tout ce lavage de vaisselle va être terminé et ces choses à ce moment-là. Quand les sœurs ou les cousines ont appris cela, elles disaient « Pauvre petite imbécile ignorante ». Eh bien, tu sais que cet homme ne le pensait pas. Et n'est-ce pas exactement ce qu'ils disent aujourd'hui? Comment une bande d'exaltés, une bande de gens qui savent à peine écrire leur propre nom, comment est-ce qu'ils pourraient être l'Église? Comment un groupe d'hommes comme ça pourrait-il l'être? Mais ce n'est pas grave. Quand nous nous sommes fiancés, avons senti ce baiser de fiançailles de Jésus-Christ sur notre cœur pour ôter notre péché, quelque chose nous dit qu'il revient de nouveau aussi sûr que 2 et 2 font 4. Un jour, il va revenir. Toute l'année, elle a travaillé comme une esclave, économisant un petit 75 cents, c'est ce qui lui donnait comme salaire par jour. Elle économisait son argent pour acheter sa robe de mariée, pour que tout soit prêt. Oh, cela occupait toutes ses pensées, se préparer. Et elle s'est elle-même préparée. Elle a acheté ses vêtements de noces, pendant que sa cousine se moquait d'elle et la ridiculisait. Enfin, le jour est arrivé, enfin est arrivé. Elle a revêtu sa robe de mariée. Oh! Elle s'est toute préparée et s'est lavée. Et ses petites cousines se sont approchées, s'inclinaient devant elle. Elles ont dit, « Eh bien, petit imbécile, eh bien, tu sais qu'il ne le pensait pas. Il ne parlerait pas à une, il n'épouserait pas une fille comme toi. » Mais elle s'est elle-même préparée de toute façon. Il se faisait tard le soir, ils ont commencé à se jouer d'elle et se moquer d'elle. Elle s'est tenue à la porte à attendre de toute façon. Alors, il a dit, « À quelle heure a-t-il dit qu'il serait ici? » Elle a dit, « Il ne l'a pas dit. » Mais elle a dit, « Il m'a dit ce soir-là qu'il allait me marier ou qu'il m'a donné la bague de fiançailles. » Il a dit, « Il m'a dit, ce sera environ dans un an. » Par conséquent, il ne me reste qu'une heure. Amen. Elle a simplement continué à attendre. Il ne me reste qu'une heure, que 30 minutes, que 10 minutes. Et elle riait d'elle et se moquait d'elle et la traitait de n'importe quoi. Mais finalement, à cette heure cruciale, elles ont entendu le sable qui grinçait sous les roues, les chevaux qui arrivaient. Quelle chose c'était que de voir cette petite épouse qui s'était préparée sortir en vitesse par la porte et contourner les treillis couverts de roses pour voler dans les bras de l'homme qu'elle aimait et qui allait être son mari qui était venu la prendre comme ça pour se marier et partir au loin. Un de ces jours, frère, ceux qui se moquent et qui traitent d'exaltés, de pentecôtistes et des choses comme ça, nous attendons et il nous reste encore un peu de temps. Ils disent, ah, il n'y a pas de différence avec ce qui a toujours été. Ne vous inquiétez pas, il nous reste un peu de temps. Et au moment qu'il a promis, il sera là. Et un de ces jours, nous prendrons notre envol et nous partirons. Tenez-vous prêts, soyez revêtus de votre habit de noces, gardez votre cœur pur de toute cruauté. Écoutez ce que dit l'Écriture ici. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. Vous saisissez? Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Que Dieu soit loué. Et il me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ainsi, il va y avoir une réunion dans les airs, un séjour dans ce doux au-delà. Oh oui. Soyez prêts, tenez-vous prêts, purgez votre cœur de toute mauvaise pensée, ayez foi en Dieu, peu importe combien ça semble sombre, combien de rires et de moqueries qui disent « Tu t'es trompé », continuez à vivre dans la sainteté et à vivre pour Dieu, continuez d'avancer, l'heure va venir. Ainsi, voyez-vous, elle réapparaît ici dans Apocalypse 19, après ces choses, après avoir vu l'âge de l'Église, après ces choses, je regardais et voici une porte. Souvenez-vous, Jean est toujours à Patmos. Et après qu'il eut vu tous les âges de l'Église passer, je regardais et voici, il y avait une porte ouverte dans le ciel. Une porte. Qu'est-ce que la porte? Apocalypse 3, 8. Dans Apocalypse, au chapitre 3 et le verset 8, Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, et que nul ne peut ouvrir. Il est la porte. La porte. Christ est la porte. Il a dit dans Jean 10, « Je suis la porte de la bergerie. » Et dans le vieux pays, on découvre qu'un berger fait entrer ses brebis. Une fois qu'il les a comptées, qu'il a vu qu'elles étaient toutes là, alors il s'allonge dans la porte. Le loup ne peut pas entrer sans le réveiller, ou ses brebis ne peuvent pas sortir sans passer par-dessus lui. Oh, comme les brebis se sentent en sécurité parce que le berger est allongé dans la porte. Noé, dans l'Ancien Testament, se tenait à la porte de l'arche. Oh, écoutez, je vais dire quelque chose. Il se tenait à la porte et prêchait la repentance et la justice au peuple qui se moquait de lui. Et dans cette même porte où il se tenait, personne ne pouvait entrer dans l'arche si ce n'est par cette seule porte. Il n'y avait qu'une seule porte dans l'arche. Il n'y a qu'un seul chemin. Très bien, frère. Il n'y a qu'un seul chemin qui nous fait entrer dans le corps du Christ. Il n'y a qu'une seule porte pour entrer dans l'Église du Dieu vivant. Et Jésus est cette porte. Je suis la porte. Je suis le chemin, la route qui mène à la porte. Je suis la porte de la bergerie. Il a dit à cet ange de l'Église, « J'ai mis devant toi une porte ouverte. » Il a dit cela à l'âge de l'Église méthodiste. Ils s'en sont détournés. Ils sont entrés dans l'organisation. « Mais j'ai mis devant toi une porte ouverte. » Après qu'ils ont reçu la sanctification, il a dit, « Je mettrai une porte ouverte qui est le Saint-Esprit. Par un seul esprit, nous sommes tous, comment? Baptisés en un seul corps qui est Christ. » Il a mis ce message devant l'Église méthodiste et ils s'en sont détournés. Ils sont arrivés à la sanctification et ont refusé le Saint-Esprit. Vous vous rappelez, cette porte ouverte, comment entrez-vous en Christ? Par un seul esprit, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ. Nous sommes entrés non pas en serrant la main, non pas en aspergeant, mais par un seul baptême du Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés en un seul corps et nous sommes rendus participants de ce corps. Un seul baptême du Saint-Esprit dans cette porte. Cette porte est dans le ciel. Cette porte, lorsqu'il a levé les yeux, il a vu le Seigneur Jésus. Surveillez la partie qui suit cela. Cette porte, le Seigneur Jésus. Je regardais et voici, il y avait dans le ciel une porte ouverte et la première voix, j'entendis une voix de trompette. Maintenant, la scène change. Jean surveillait Patmos. Et maintenant, il lève les yeux. Pourquoi? Il voit quelque chose qui s'est passé sur la terre ici, ces âges de l'Église, tout au long des sept âges de l'Église. Et puis après qu'il ait fini de voir les âges de l'Église, après cela, après que les âges de l'Église ont cessé, il a entendu une voix. Il a levé les yeux vers le ciel et il a vu une porte ouverte. Et la première voix sonnait comme une trompette. Très bien, la scène est passée de Patmos au ciel. La voix était la même voix qui marchait au milieu des sept chandeliers d'or. La même voix, la voix n'a pas changé. Mais la voix, où était-elle quand il l'a entendue la première fois? Combien s'en souviennent dans le premier âge de l'Église, derrière lui? Je fus ravi dans l'Esprit au jour du Seigneur, Apocalypse 1, 1, 10. Alors, il, dans l'Esprit, si vous voulez le noter, dans Apocalypse 1, 10 et 13, je fus ravi en Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix comme une trompette et le bruit de beaucoup d'eau. Et quand je me suis retourné pour regarder, j'ai vu quelqu'un debout au milieu des sept chandeliers d'or. Après qu'il eut montré tout le mystère des sept chandeliers d'or, qui tenait ses sept étoiles et qui portait une perruque blanche, et ainsi de suite, et les pieds comme de l'airain, et les yeux comme du feu, les symboles, il entendit alors la même voix, surveillée, qui venait du ciel. Puis il a levé les yeux et il a vu une porte ouverte. Oh, une porte ouverte dans le ciel. Comment y entrez-vous? Par Jésus-Christ, cette seule porte, le seul chemin, aucun autre chemin. Tout homme qui entre par un autre chemin est un voleur et un brigand. Et dans la parabole de celui qui était monté et qui était au souper des noces sans l'habit, il a été reconnu coupable et jeté dans les ténèbres du dehors. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au souper des noces. Je crois que j'ai prêché là-dessus il n'y a pas si longtemps. Lorsque l'époux, quand un homme se marie dans le vieux pays, il doit lui-même faire les invitations. Il doit lui-même fournir les vêtements. Alors, quand il a rencontré cet homme là-bas, lui assis à la table du souper, combien se souviennent de la parabole? Bien sûr, vous qui lisez la Bible. Il a trouvé un homme à la table du souper sans l'habit de noces. Qu'est-ce que c'est? L'épouse se tient à la porte et tous se présentent avec une invitation. Nul ne peut venir au Père si ce n'est que par moi. Tous ceux que le Père m'a donné ou a invité viendront à moi. Et voilà qui arrive, donne leur invitation, l'époux, pour que tout le monde se ressemble. C'est une chose à propos de la bonne vieille religion du Saint-Esprit, ils se ressemblent tous. Qu'ils soient riches ou pauvres, esclaves ou libres, noirs ou blancs, hommes ou femmes, ils ne font qu'un en Jésus-Christ. L'époux se tenait à la porte et prenait l'invitation, mettait l'habit à cet homme pour que les riches et les pauvres se ressemblent. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de grands hommes et de petits hommes. Ils sont tous un seul homme, tous un en Christ. Maintenant, que pensez-vous que fait l'époux quand il revient et trouve un homme assis là sans l'habit de noces? Il a dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici? » Cet homme avait la bouche fermée. Cela montrait qu'il était venu par un autre chemin que la porte. Il était entré par une fenêtre ou par la porte arrière. Et il a appelé un ami. Cela montrait qu'il était un membre d'Église. « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit de noces? » Maintenant, Jésus a dit ceci lui-même. Puis il a appelé le portier. Il a dit, « Liez-lui les pieds et les mains. » Il a été jeté dans les ténèbres du dehors. Il y aura les pleurs et des gémissements et des grincements dedans. Ce sont les propres paroles de Christ. C'est vrai. Il a été chassé parce que ça prouvait sans l'habit de noces qu'il était venu par un autre chemin que la porte. S'il était venu par la porte, il aurait reçu l'habit de noces. Oh, écoutez ceci. Alors, si l'habit de noces est le baptême du Saint-Esprit, comment allons-nous être représentés d'une autre manière? Si le premier âge de l'Église a dû passer par la porte, Jésus-Christ, être baptisé au nom de Jésus-Christ, recevoir le baptême du Saint-Esprit pour revêtir l'habit de noces, comment y arriverons-nous autrement? Si vous venez par les méthodistes, par les baptistes, par les pentecôtistes ou par toute autre dénomination, vous serez liés et chassés dans les ténèbres du dehors. Vous devez venir par Jésus-Christ, le chemin, la porte, la vérité et la vie. Amen. Très bien. La même voix, Apocalypse 21 ou Apocalypse 1, 10 et 13. Et je veux que vous remarquiez que la voix qu'il entendait lui parlait avec la clarté d'une trompette. Vous connaissez le son d'une trompette? Elle donne un son strident. Que signifie une trompette dans la Bible? La guerre. Chaque fois que vous entendez une trompette sonner lors d'une guerre du temps de la Bible, son retentissement signifiait une guerre, une révélation ou quelque chose allait se produire. Maintenant, après les âges de l'Église, quand tout était prêt, qu'on eut tout préparé pour le chapitre 4 ici, les âges de l'Église étaient terminés, ils avaient quitté la terre. Vous voyez, souvenez-vous, la voix qui lui parlait derrière lui, parmi les sept chandeliers d'or, l'œuvre était terminée. Maintenant, cette même voix s'exprimait dans le ciel. Qu'est-ce que c'était? Il avait racheté son peuple. Son œuvre terrestre était terminée. Ils étaient dans la gloire, appelant Jean, « Monte ici! » Ah oui, amen. Ça me donne comme envie de crier à la veille du nouvel an. Oh là là! C'est cela. Vous voyez, c'est prêt. Monte ici, la guerre. C'est ici que se déroule la grande bataille. Le peuple qui a rejeté le message de Dieu, rejeté le Saint-Esprit, le messager des sept églises, il ne restait rien pour celui qui avait rejeté ce message de sa grâce, sinon le jugement qui était prêt. Oh, vous alors qu'il se préparait à répandre les fléaux sur la terre maintenant. Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Des pécheurs impies rejetant Christ, je vais répandre ma colère sur eux. Observez le déroulement. Oh, chaque soir, vous en saisirez de plus en plus tout le temps. Nous ne pouvons pas tout avoir ici. Il faut continuer de se référer d'un endroit à l'autre, que sera une chose terrible pour ceux qui vont entendre la dernière trompette. Quand la dernière bataille aura été livrée, que le dernier sermon aura été prêché et le dernier cantique chanté, et que nous serons au trône du jugement de Christ. On va vous demander, pourquoi ne l'as-tu pas reçu? Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? On vous demandera une raison. Alors quoi? Vous avez entendu chanter ce chant ou essayer? Alors quoi? Alors quoi? Quand le grand livre sera ouvert, alors quoi? Quand ceux qui rejettent le message, il sera demandé une raison. Alors quoi? Vous serez là tout aussi sûr que ce livre est écrit. Vous serez là et on vous demandera une raison. Oh, il nous est profitable, mon frère et ma sœur. Il nous revient en tant que fils et filles de Dieu de nous sonder à chaque heure du jour. Paul a dit, je meurs chaque jour. Bien que je vive, non pas moi, mais Christ vit en moi. Voyez? Soyez prêts parce que vous ne savez pas à quelle heure vous serez convoqués pour répondre là-haut. Maintenant, écoutez la voix de la trompette. Très bien. Remarquez ce que Jean a dit ici dans la dernière partie du chapitre 1. La première voix était comme une trompette qui parlait avec moi et a dit, « Monte ici. Monte ici. Je t'ai montré les âges de l'Église sur la terre. Maintenant, monte ici. Je vais te montrer quelque chose qui se passe ici en haut. » Voyez, Christ avait quitté la terre alors. Il était monté dans la gloire. L'âge de l'Église était terminé, montrant que son esprit avait fini son travail ici. Il était monté dans la gloire et demandait à Jean de monter pour lui montrer ce qui allait arriver dans la suite. Monte ici. Maintenant, nous voyons Jean, le chapitre 2, au verset 2. Remarquez rapidement, Jean a ajouté ceci. Aussitôt! Amen. Oh, si je dis bizarrement, je me sens vraiment bien. Jean a ajouté, « Aussitôt, je fus ravi en esprit. » Quand vous entendez la voix de Dieu, vous parlez, quelque chose se produit. Amen. Oh, est-ce que ça s'est produit comme ça pour vous? Pour moi, oui, il y a 31 ans, je n'ai plus jamais été le même depuis. Oh, quand il a dit, « Montez jusqu'à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ça m'a changé. Jean a dit, « Aussitôt, je fus ravi en esprit. » Quel esprit? Le Saint-Esprit. Oh! J'étais dans l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Vous voyez, Jean avait quitté la terre. Là, Christ avait quitté la terre sous la forme du Saint-Esprit et était revenu dans le corps de nouveau. Aujourd'hui, le corps est là comme un mémorial, comme un sacrifice. Nous allons en parler tout au long du chapitre ici. Mais l'Esprit de Christ est revenu pour vivre dans l'Église, pour vivre en nous. Maintenant, aussitôt, après qu'il eut montré son œuvre à la fin de l'âge ici, il est monté au ciel et a dit, « Je te montrerai ce qui va arriver dans la suite après les âges de l'Église. » Il a dit, « Jean, je ne peux pas en dire plus d'ici-bas parce que je suis parti de là, je suis monté plus haut. Monte ici avec moi. » Amen. Je vais te montrer ce qui doit arriver par la suite. Oh là là. Oh. Ravi dans la vision. Ravi dans la gloire. Son expérience devait ressembler à celle de Paul. Dans 2 Corinthiens 12, 2 et 4, si vous le notez. Corinthiens 2 à 4. Un jour, Paul a été ravi dans une vision, lui aussi. Le saviez-vous? Il a vu des choses qui n'étaient pas permis même d'en parler. En 14 ans, il n'en a jamais parlé, voyez? Mais écoutez la différence entre les deux. Ce que Paul a vu, il lui a été interdit d'en parler ou de le rendre public. Oh là là! Je ne crois pas qu'il aurait pu le faire. Car d'un petit voyage que j'ai fait un jour, je n'en suis jamais revenu, je n'en reviendrai jamais. Vous voyez, il a vu des choses dont il ne pouvait pas parler. Je pense qu'il n'avait pas de mots pour. Il a été ravi au troisième ciel, toutefois. Vous voyez, là-haut, dans le troisième ciel, comme c'était différent. Lorsque Jean a été ravi et a vu Jésus, il a dit, « Écris dans un livre ce que tu as vu et répands-le, envoie-le aux églises. » Paul s'est vu interdire d'en parler, tandis qu'on a même demandé à Jean de le mettre dans un livre pour que cela soit transmis dans tous les âges. Oh là là! C'est révélé maintenant. Ça devait l'être dans ces derniers jours. Ça n'était pas révélé dans son temps. Ça l'est maintenant, au fur et à mesure que nous avançons. Oh, et remarquez que Jean, ayant été ravi immédiatement après l'âge de l'Église, était un type de l'Église enlevée. Immédiatement après la fin de l'âge de l'Église, cet âge de l'Église de Laodicée, alors l'enlèvement se produit. L'Église monte comme Jean l'a fait, dans la présence de Dieu. Oh là là, phew! Ça envahit mon âme, ravi à l'enlèvement de l'Église. Et cela dit, ce temps, le livre de l'Apocalypse a été écrit, vous voyez, à la fin de l'âge de l'Église. Maintenant, j'ai un petit quelque chose ici que je vais éclaircir, quelque chose qui est en suspens depuis longtemps parmi beaucoup de chrétiens. Et j'ai pensé aujourd'hui qu'alors que j'étudiais en notant les Écritures et trouvant des noms, différentes couleurs et tout ça, nous allons les voir dans un moment, les arcs-en-ciel, les symboles et ainsi de suite. J'ai noté ces Écritures ici pour pouvoir les relire, m'y référer, parce que d'habitude, je dois parler de quelque chose comme ça, ce serait différent, j'essaierais de m'en rappeler par cœur. Mais de cette façon, quand vous m'avez que peu de temps, j'aime m'y référer parce que cela se répète d'un bout à l'autre des Écritures. Donc, dans Matthieu 16, 13, nous voyons ceci. Si vous voulez noter les Écritures, Matthieu, si vous voulez retourner, si vous voulez le prendre, c'est bon, Matthieu 16, 13, c'est où nous allons donc le prendre et le lire. Et ainsi, nous le saisirons bien. Matthieu, le chapitre 16 et le verset 13. Écoutez attentivement comme nous lisons 16-13. Quand Jésus arriva sur les côtes de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, « Qui dit-on, je suis moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Certains disent, tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Mais qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon Bar-Jonas, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je vais bâtir mon Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et maintenant, je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus le Christ, écoute attentivement maintenant, très bien, car le temps commence à partir de ce moment. Je veux prendre un autre, vous pouvez lire ensuite, prenez le verset 28 ici, parce que vous pourrez lire le reste quand vous serez chez vous. En vérité, je vous l'ai dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Oh, pensez-y. Quelques-uns ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quelle déclaration! Comme le critique aime prendre ça et montrer à quel point il est ignorant, voyez? Comme il aime saisir l'occasion et c'est arrivé, il n'en savait rien, voyez? Très bien. Après le roc de la confession de Pierre, et nous savons que sa confession, il allait bâtir son Église sur ce même roc, pas sur Pierre, qui est une petite pierre, comme les catholiques romains essaient de le dire, mais sur la confession de la révélation de Pierre. C'est ça, l'Église. Dieu va la révéler. Ce n'est pas la confession de cet homme, parce que plus tard, il a rétrogradé. Ce n'est pas la confession de lui étant le Fils de Dieu, parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Pierre l'a simplement dit, mais ce que c'était la révélation qui avait été révélée du ciel qu'il était le Fils de Dieu. Il a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, et sur cette pierre, ce roc de la confession, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer n'affecteront pas, ne prévaudront point contre elle. J'espère que nous aurons assez de temps maintenant pour que nous puissions aborder cela immédiatement. Nous voulons voir comment cela entre dans l'être humain. C'est une belle histoire ici. Nous arrivons à l'aborder. Très bien. Oui. La confession de roc, ce que Pierre était, il allait bâtir son Église sur la révélation de Pierre. Il a dit, « Quelques-uns ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Maintenant, souvenez-vous, il a dit « Quelques-uns ». C'était plus qu'un, n'est-ce pas? Quelques-uns seraient plusieurs, plus qu'un. Mais maintenant, regardez, tous ces disciples étaient là. Ils demandaient à chacun d'eux, « Que pensez-vous de ceci? Que pensez-vous de cela? » Mais ils avaient dit, « Quelques-uns d'entre vous ici, qui sont ici, ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Oh là là, quelle déclaration. Pensez-y, il y a 2000 ans qu'elle a été prononcée. Est-ce pour elle, la parole de Dieu est-elle infaillible? Chaque parole qu'il dit va s'accomplir. Maintenant, si nous voulons, prenons le chapitre 17 de Matthieu, qui est le suivant. Quand il a appris, quelques jours plus tard, il a pris à l'écart Pierre, Jacques et Jean et les a conduits sur une haute montagne pour être témoins. Pierre, Jacques et Jean, et ils ont vu le règne de Dieu venir en puissance. Ils ont vu la vision préalable de la venue du règne de Dieu. Amen. Oh, ils ont pu voir la vision préalable du royaume de Dieu tel qu'il va venir, le commencement du millénium. Ils ont vu la vision préalable. Ils ont vu la vision préalable il y a quelque temps. Un groupe de ministres, Oral Roberts en faisait partie. Cecil B. DeMille, quand il a écrit ses 10 commandements, il a appelé frère Shakarian, frère Roberts, beaucoup de prédicateurs partout dans le pays, tous les prédicateurs étaient invités. Il les a invités à venir dans le studio avant que le film soit rendu public. Il leur a fait voir l'avant-première, avant la toute première présentation, alors qu'il chargeait 25 $ du billet. Mais ils l'ont vu l'avant-première afin qu'ils donnent leur opinion, à savoir s'ils avaient des critiques sur celui-ci ou ce qu'ils pouvaient en dire, et ainsi de suite. Ils l'ont vu avant que le public ne le voie. Et Jésus a dit, « Quelques-uns de vous ici, amen, ne mourront point qu'ils n'aient vu le règne de Dieu venir en puissance. » Ou voir le Fils de l'homme venir dans son règne, plutôt. Vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quelques jours plus tard, il prit Pierre, Jacques et Jean, et ils sont montés sur une haute montagne. Et là, il a été transfiguré devant eux. Le soleil ne pourrait pas briller autant que les vêtements qu'il portait. Combien de fois l'avons-nous vu dans les paraboles? Nous l'avons vu partout dans la Bible. Vous pouvez prendre un texte de l'Écriture et faire des liens avec toute la Bible, avec celui-ci. Oui, monsieur, aucune faille nulle part. Elle est toute recouverte de la puissance de Dieu. Le diable ne pourrait pas s'y faufiler s'il devait le faire. C'est vrai. Il ne peut pas entrer dans ces saints qui ont rendu leur témoignage là-bas et cru au règne de Dieu et qui ont pris chaque écriture et l'ont recouvert de la puissance du Saint-Esprit, l'ont lavé dans le sang. Le monde ne peut pas y entrer. Le diable ne peut pas y entrer. Ils sont morts. Leur vie est cachée en Christ par le sceau de Dieu, par le Saint-Esprit. Comment le diable peut-il leur faire du mal? Les voilà dans cette condition, là, dans cet endroit. Alors, il a vu la venue ou la vision préalable. Et quelle était la première vue, chose qu'il a vue? La première chose qu'il a vue dans la venue était Moïse, représentant les saints morts qui allaient ressusciter. Élie était là. Oh, je veux que vous remarquiez ce qui va se passer. Il y avait Moïse, premièrement. Ce sont ces 6 âges où il dormait, les 6 âges de l'Église. Non seulement cela, mais Élie était là, le messager du dernier jour avec son groupe, de ceux qui sont transfigurés, ceux qui ont été enlevés. Amen. maintenant dans le futur, attendant la venue. Et que font-ils tous? Tous s'étaient rassemblés avec lui. Oh là là! Qu'est-ce que c'était? Sa promesse à Pierre, Jacques et Jean étaient accomplis. C'est vrai. Parce qu'il avait dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ils en ont vu la vision préalable. Puis après cela, après la résurrection, je voudrais vous apporter autre chose. Après la mort de Jésus, de son ensevelissement, dans Jean 21-20, un critique a commencé à répandre ceci dans les débuts. Pendant que nous sommes dans la leçon, faisons le point sur tout ça. Dans Jean 20-21, Jésus avait rencontré ses disciples, leur avait donné à manger du poisson et du pain sur le feu. Alors qu'il marchait sur le rivage, Jean s'est appuyé sur son sein et Pierre lui a posé la question, « Que va-t-il arriver à cet homme? » Jésus aimait Jean. Jean était un homme plein d'amour. Il a dit, « Que va-t-il arriver à cet homme? Quel sera son héritage? Quel sera son avenir? » Et Jésus leur a dit, « Que vous importe? S'il reste jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que je revienne, que vous importe? » Et les disciples ont commis une erreur. Ils ont dit, Jésus a dit qu'il allait vivre jusqu'à la venue. Mais Jésus n'avait pas fait d'erreur. Ici même, dans l'Apocalypse, au chapitre 4, Christ a gardé sa parole. Il a fait monter Jean au ciel et lui a montré toute la vision préalable. Gloire! Il a vu l'avant-première. Il l'a vu comme s'il vivait sur terre et avait vu tous les anges de l'Église s'écouler jusqu'à la venue du Seigneur, le livre entier de l'Apocalypse. Oh là là! Voyez-vous comment infaillibles sont ses promesses? Alors, vous êtes choisis, Jacques, pour faire cela, Jean, n'importe lequel d'entre eux, il n'a même pas laissé Paul le voir, ni en parler, ni rien. Il a dit que vous importe s'il reste jusqu'à ce que je vienne. Et comme ils avaient dit cela, il a choisi Jean, il l'a fait monter, il lui a tout montré avant qu'il ne meure, tout comme s'il avait vécu tout ce temps-là, il lui a montré ce qu'il en serait. Frère Pat, n'est-ce pas merveilleux? Oh, vous voyez. Il l'a fait monter directement. Juste ici, au chapitre 4, le verset 2, le prouve. Il lui a montré les choses qui étaient, qui sont et qui allaient venir. Il a montré l'âge de l'Église, la venue des Juifs, le déversement des fléaux, l'enlèvement, son retour et le millénium et la demeure éternelle de se sauver. Tout comme s'il avait vécu toute la chose, il a vu tout cela arriver. Voyez? Voyez? Il l'a fait monter, il lui a montré le film qu'il est en train de tourner. Il lui a laissé voir la vision préalable. Oh là là! Il a été ravi. Il a accompli sa promesse dans Apocalypse 4:2. Avant sa mort, il a été ravi en esprit et a vu les choses comme s'il les avait vécues. Il en a vu la vision préalable. C'est ainsi qu'il a vu en vision exactement ce qui serait arrivé et ce qui va arriver sur la terre depuis ce temps jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Il lui a montré en vision. Ainsi donc, les disciples, personne qui a déjà dit qu'il avait dit qu'il viendrait dans cet âge-là, il a dit que vous importe s'il, autrement dit, s'il reste jusqu'à ce que je vienne. Ainsi, il l'a fait monter, il lui a simplement montré la vision préalable et il lui a montré ce qui allait arriver. Oh, j'aime vraiment cela. Oh là là. Remarquez maintenant, voyons ce que c'était. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis, dessus. Il y avait une voix qui l'appelait. Oh, cette voix! Oh, je ne peux pas m'éloigner de ça. La voix de celui qui était derrière lui. Puis il a regardé autour de lui. Il lui a montré toutes les âges de l'Église. Parce qu'il était debout dans les âges de l'Église, les sept chandeliers d'or. Puis il a entendu cette voix après la fin des âges de l'Église. Cette voix a quitté la terre et est montée. Et qu'elle est entrée dans la gloire, il l'a entendu. Monte ici! Je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite. Oh là là! Cette voix. Prenons un instant pour parler de cette voix. J'ai quelques écritures notées ici. Allons dans 1 Thessaloniciens 4 et écoutons ici ce que cette voix va dire. Nous savons tous ce qu'elle va dire sans avant de le lire, n'est-ce pas? Nous savons ce qui va arriver. La trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront, pas vrai? Vous qui le prenez en note dans Thessaloniciens 4, 16 et 17, la voix, cette voix était la voix de Christ, pas vrai? La voix de Christ. Car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. La même voix qui a appelé Jean, monte ici. La même voix qui a dit à Jean, monte. Et la même voix qui a appelé l'Église, qui va appeler l'Église un jour. Amen. Qui appelle l'Église. C'est aussi la même voix qui a appelé Jean à venir. C'est la même voix qui a fait sortir Lazare, qui était mort de la tombe. Cette même voix de l'archange. Christ est la voix de l'archange. La voix de l'archange. Vous voyez? Oh, cette voix de trompette de Christ a demandé à Jean de venir. La même voix qui a appelé Lazare. Avez-vous remarqué à la tombe de Lazare qu'il a parlé d'une voix forte? Il n'a pas juste murmuré, « Lazare, sors! Lazare, sors! » Il l'a appelé d'entre les morts. Il a répondu, « Me voici. » Il est ressuscité des morts après qu'il ait été mort et que son corps soit putréfié. Cette même voix dit à Jean, « Monte ici! » Je vais te montrer ce qui doit arriver dans la suite. Cette même voix qui va retentir quand les morts en Christ vont ressusciter. Car la trompette, qu'est-ce qu'une trompette? La voix de Christ, la même qui a retenti et l'a appelé. Il a entendu la voix comme un son de trompette. Il a dit, « Monte ici. » Vous voyez comment sera la résurrection? Ce sera en un instant, en un clin d'œil, cette voix claire retentira. Il va appeler l'Église en criant, « Sortez du milieu d'elle! » Cette grande voix qui appelle, « Dieu, aide-moi à l'entendre ce jour-là. » Comme je l'ai souvent dit, je sais qu'en tant que mortel, Rodney, je sais qu'il y a de grandes portes sombres devant moi, qu'on appelle la mort. Chaque fois que mon cœur bat, je suis un battement plus près de cette porte. Un de ces jours, je devrais la traverser, mais je ne veux pas y aller comme un lâche, en criant et en hurlant. Je vais y aller en m'enveloppant dans la robe de sa justice, sachant ceci, que je le connais dans la puissance de sa résurrection, qu'un jour, quand il appellera, je ressusciterai des morts. Quand il va m'appeler à paraître là-haut, quand la trompette de Dieu retentira et que les morts en Christ se lèveront, si je suis vivant, je serai changé en un instant, en un clin d'œil, et je monterai avec les autres à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cette voix de trompette sonne clairement et fort. Oui. Oh. Ce sera la même chose à sa venue. Il n'y a pas de son incertain là-dessus. Il n'y avait rien d'incertain pour Jean quand il a entendu cette voix dire, « Monte ici! » Il est monté. Amen. Quand Lazare, parmi les morts, dans la tombe, et son âme depuis 4 jours, en séjour quelque part, je ne sais pas où il était, je ne pense pas qu'aucun nous le sache, peu importe l'endroit, ça ne faisait aucune différence. Il n'a appelé qu'un seul homme dont les vers de peau dévoraient son corps, qui puait dans la tombe. Cette trompette au son clair a dit, « Lazare, sors! » Là, un homme mort et putréfié s'est ressaisi et est sorti de la tombe en marchant. Il n'y a rien d'incertain à ce sujet, n'est-ce pas, frère? Aucune incertitude à cela. C'est la même chose ce soir, lorsqu'une voix claire dit, « Pécheur, repens-toi, je vais te donner la vie éternelle. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est ça l'appel. Rien d'incertain concernant cela. Je suis témoin que c'est vrai. Il y a d'autres témoins, des millions d'entre eux dans le monde aujourd'hui qui sont témoins que c'est la vérité. Quand on en vient à la Bible, les paroles de Dieu, chaque parole de Dieu est une trompette. Chaque son de la parole est une trompette. La trompette de l'Évangile. Et quand elle retentit, c'est la vérité. Quand il a dit « Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, éternellement », rien n'est certain concernant cela. Il est le même. Oui, monsieur. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, vous recevrez le don du Saint-Esprit, rien d'incertain concernant cela. Celui qui entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Celui qui croit en moi, bien qu'il meure, il vivra. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Rien d'incertain concernant cela. Il vivra. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Rien d'incertain concernant cela. Rien. C'est un son certain. Oh, je le connais. Je l'ai entendu retentir dans mon pauvre cœur irlandais un jour. Moi, un petit pécheur, comme cela pourrait me venir en aide. Mais j'ai cru que c'était un son particulier. Je l'ai accepté. Je suis témoin que c'est vrai. Un jour, il va appeler de nouveau. Nous partirons de la terre. Car il n'y a rien d'incertain concernant cette trompette. Oui, monsieur, pas de son confus, jamais. Il sonne aujourd'hui quand il nous appelle, c'est la même chose quand il nous dit quelque chose. Revenons maintenant au verset. Et un, voici, il y avait un trône dans le ciel, verset 2. Et quelqu'un était assis dessus. Observez, le trône. Il s'est assis sur le trône. Il n'était plus au milieu des chandeliers maintenant, sur la terre. L'enlèvement avait eu lieu. Il était dans la gloire, assis sur son trône. Je veux que vous remarquiez plus bas, nous verrons même dans le chapitre 5, que ce n'était pas le trône de miséricorde. Ce n'était plus un trône de miséricorde. C'était le trône de jugement. Ce n'était pas un trône de grâce. C'était un trône de jugement parce que le feu, la foudre, les tonnerres en sortaient. Il n'y en a plus. La miséricorde est terminée. L'âge de l'Église est terminé. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce n'est plus un trône de miséricorde. Ce soir, le saint est sur ce trône et c'est un trône de miséricorde pour tout pécheur qui cherche la miséricorde. Mais ce jour-là, ce ne sera plus un trône de miséricorde, ce sera un trône de jugement avec un Dieu en colère assis là. Ouh, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront les pieds le pécheur? Même que lorsqu'il viendra sur les nuées de sa gloire, les montagnes chercheront un endroit pour se cacher. Où allons-nous rester alors? Oh, précieux est ce flot qui donne au cœur nouveau. Non, je ne connais rien d'autre que le sang de Jésus. Oh là là! Quelle leçon! Pas de son confus. Et son trône, et il s'assit sur son trône, il n'est plus ici. Maintenant, c'est autre chose. C'est une preuve que l'Église est enlevée avant la grande tribulation. Voyez? Pourquoi? Le voici sur le trône dans la gloire, et l'Église est partie. Et alors vient la tribulation. J'ai toujours dit que du temps de Noé, Noé était dans l'arche avant qu'une goutte de pluie ne tombe. Lot était sorti de Sodome avant que le feu ne tombe. Et l'Église va être dans la gloire avant que la bombe atomique ne tombe. C'est vrai. Avant que la bombe atomique ne tombe. Vous dites, qu'en était-il de la première? C'était sur les païens, pas sur les chrétiens. Maintenant, remarquez. Oh, il a fini son travail sur la terre. Il a pris son Église et maintenant, il envoie le jugement. Le monde l'a rejeté. Il envoie son jugement. Lui et son Église sont partis dans la gloire. Jean, là, sur l'île de Patmos, un révélateur pour l'Église, a été le type de l'Église qui est élevé dans la gloire. Monte ici. Montrant, vous dites, il représentait l'Église. À quiconque entend cette parole, Jean le représentait. Amen. Jean était le représentant du sang de Jésus-Christ, un témoignage de la parole. Il était témoin du baptême du Saint-Esprit avec une communion personnelle avec Christ et il représentait l'Église entière qui, tout homme ou femme, garçon ou fille qui a cru en Christ, l'accepte sur les mêmes bases. Il sera appelé un jour. Monte ici! Il sera enlevé avant la tribulation. Rappelez-vous, le temps de la tribulation n'a pas encore commencé. Ceci, c'est le temps où se déroule le jugement. On montre ici à Jean ce qui va arriver après l'âge de l'Église. Voyez? Alors, c'est bien cela. Maintenant, remarquez encore au verset 3 ou 2. un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Or, le même esprit qui était sur la terre était parti, était allé dans la gloire et était assis. Le même Jésus qui est avec nous ce soir dans la miséricorde était parti dans la gloire et assis sur le trône. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Je vais m'arrêter parce qu'il y a d'autres frères qui doivent prêcher. Je vais peut-être prendre cela demain matin, juste ici et ainsi, semblable à de l'émeraude. Oh là là!
Oh.
Il y a des gens presque partout dont le cœur est en flamme. N'aimez-vous pas ça? Feu tombé à la Pentecôte qui les a sanctifiés. Oh, il brûle maintenant dans mon cœur. À son nom, la gloire. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Jean, appelé et convoqué par le Seigneur Jésus, Dieu, lui avait promis qu'il verrait la venue du Fils de l'homme. Pierre, Jacques et Jean, et ceux qui étaient présents lorsque Jésus leur a parlé, il a dit, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir. » Il n'a pas dit que tous ceux qui étaient là, mais quelques-uns. Quelques jours plus tard, ils sont allés, ils ont vu l'ordre dans la vision préalable de la résurrection et la venue du Seigneur. Il y représentait les saints morts. Je veux dire Moïse, qui seront ressuscités. Élie représentait le groupe qui est enlevé. Souvenez-vous, Moïse était le premier, et ensuite Élie. Élie devait être le messager au dernier jour, qu'avec lui et son groupe vienne la résurrection, viendrait l'enlèvement. Je veux dire, Moïse a introduit la résurrection et Élie a introduit le groupe des enlevés. Et là, les deux étaient représentés juste là. Au bout d'un moment, ils ont remarqué, ils ont vu que, et Pierre a dit, bâtissons trois tabernacles, que certains soient sous la loi, que d'autres soient sous l'Élie et que d'autres encore soient comme ceci. Comme il parla encore, une voix fit entendre ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et quand ils ont regardé, ils ont vu que Jésus, il ne restait plus que lui. Oh, il était la lumière, la vérité, le chemin, la porte, l'arc-en-ciel. Oh, demain, nous aurons une leçon importante, le Seigneur voulant. Demain, nous prendrons les jugements. Nous prendrons la pierre de sardoine pour voir ce qu'elle représente, quel rôle elle a joué. Et nous prendrons le japs et toutes les différentes pierres et nous les verrons tout au long jusqu'à Ézéchiel, puis dans la Genèse, puis dans l'Apocalypse. Nous reviendrons au milieu de la Bible. Nous ferons des liens entre eux, ces différentes pierres et couleurs et ainsi de suite. Et ensuite, nous allons le ramener directement à cela et nous allons voir si ce n'est pas juste, voyez, pour voir si ce n'est pas la même couleur et tout, et juste la même chose. Et le même Saint-Esprit, le même Dieu montrant les mêmes signes, les mêmes prodiges, faisant la même chose, tout comme il l'avait promis. Il dit à Pierre, Jacques et Jean, et à ceux qui étaient là, quelques-uns de ceux qui sont ici, ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Il a dit à Jean, dit Pierre, a dit, qu'adviendra-t-il de lui, cet homme, que va-t-il lui arriver? Il a dit, que t'importe s'il voit ma venue. Et il l'a laissé vivre pour la voir. Après que les autres soient morts et partis, Jean a vécu pour voir la vision préalable dans la puissance de la venue du Seigneur. Toute la scène s'est déroulée depuis son temps jusqu'à ce que les jugements soient accomplis et que le millénium soit commencé. Jean l'a vu en entier, puis le millénium s'est terminé et l'âge du royaume a commencé. Ainsi, il tient sa parole, n'est-ce pas? Nous le prendrons en note au verset 2. Le Seigneur voulant, nous commencerons le verset 3 demain matin. Inclinons la tête. Combien ce soir, dans cette église, savent, mon frère, que, sœur, vous allez être appelés un jour, que vous soyez prêts ou non, que vous soyez préparés ou non, vous allez être appelés à rencontrer Dieu. Cette trompette va sonner, et quand elle sonnera, elle vous condamnera là où vous ne vivrez plus jamais vous serez tourmenté dans les trous de l'enfer du diable pendant peut-être des millions d'années et vous serez appelé en haut pour rencontrer, ou vous serez appelé en haut pour rencontrer les saints glorieux. Tout aussi sûr que Dieu a tenu sa parole envers Pierre, Jacques et Jean, tout aussi sûr qu'il l'a tenu envers Jean le bien-aimé, le révélateur, tout aussi sûr qu'il a tenu sa promesse à travers les âges de l'Église, c'est aussi sûr qu'il a promis dans ses derniers jours qu'il enverrait une pluie de l'arrière-saison et qu'il renverrait le même esprit qui était en lui sur la terre. La lumière viendra le soir et montrerait la même puissance, les mêmes signes et tout ce qu'il a fait en son jour. Il le montrerait encore dans cette porte ouverte au dernier jour. Le voici. Nous l'avons ici même avec nous maintenant, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, de même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous êtes, vous prêche, il vous enseigne, il essaie de vous montrer ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le Saint-Esprit lui-même qui parle à travers des lèvres humaines, agissant parmi les êtres humains, essayant de faire miséricorde et grâce. Vous ne l'avez pas encore reçu en cette veille du Nouvel An, voudriez-vous lever la main vers Dieu et dire, « Dieu, laisse-moi recevoir la puissance qui était sur Jean le révélateur, afin que quand je serai appelé, je me présenterai devant toi en paix comme il l'a fait. » Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est partout dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Que je sois prêt pour mon appel. Notre Père Céleste, en cette veille du Nouvel An, à peine 2 heures maintenant et ce sera terminé, il y aura une nouvelle année. Ce que nous avons fait cette année, nous l'avons fait. Il y a bien des choses que... Il y a bien des choses que j'ai fait dont j'ai honte de moi. Je me repens de ces choses, Seigneur. Et il y a bien des choses que j'ai faites que plusieurs de mes frères n'ont pas comprises. Beaucoup de mes frères dans les champs de mission ne comprennent pas pourquoi je les ai faites. Mais Père, je les ai faites parce que j'ai été conduit à les faire. Je prie, Père, pour que tu ne me laisses jamais avoir honte de cette conduite. Mais conduis-moi, Seigneur, que je continue à faire ce que je suis conduit à faire. Aide-moi, Dieu, parce que je cherche sincèrement à connaître ta volonté pour que je puisse l'accomplir et apporter, comme tu me l'as montré il y a bien des années lorsque j'ai quitté cette église, le pain de vie au peuple du monde. Quand j'ai vu cette grande montagne de pain et les saints vêtus de robes blanches venant de partout sur la terre pour manger ce pain de vie, oh Dieu, que je ne manque jamais de nourrir les gens du pain de vie. Bénis ces hommes affamés qui viennent de lever la main. Ils désirent avoir plus de vie. Je prie que tu les remplisses du Saint-Esprit, Seigneur, chacun d'eux. Dieu, accorde-le. Donne-leur les bénédictions. Aide-nous, nos frères partout. Bénis nos frères dans le ministère qui s'apprêtent à prêcher de nouveau. Dans quelques instants, d'autres vont prendre la parole. Nous prions pour qu'ils nous donnent le pain de vie ce soir, Père, comme nous écouterons attentivement et avec respect pour entendre la voix. Accorde-le, bénis-nous et que cette nouvelle année se lève avec de nouveaux espoirs, apportant de nouvelles pensées, de nouvelles révélations, une nouvelle puissance. Oh, tout, que cela nous soit renouvelé, Seigneur, tes bénédictions et tes promesses. Nous nous remettons par notre prière entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.